Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Et voici l'instant M, on est ensemble jusqu'à 10h.
Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits.
95 000 téléspectateurs.
Nos abonnements augmentent grâce au numérique.
On fout des sondages.
Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une année folle. Et si on la passait à danser le Charleston? Mais oui, car les années 20 ont démarré. Comment ne pas penser au bouillonnement créatif que furent celles d'il y a un siècle? C'est ce que nous propose Arte, avec toute une série de films et de documentaires consacrés aux années 1920. Les années folles, une explosion de joie teintée de mélancolie, de lucidité aussi, parenthèse entre deux guerres, festive, mais inquiète. C'est dans cette décennie qu'est né en France un tube que le monde entier fredonne encore aujourd'hui, le Boléro. Avec ce morceau, le français Maurice Ravel, en 1928, révolutionne l'histoire de la musique. Depuis, il a été interprété, réinterprété, remixé et dansé un nombre incalculable de fois. Il figure dans la bande originale d'une flopée de films. Cette musique hypnotise. Un documentaire enthousiasmant tente d'en percer le mystère. Boléro, le refrain du monde.
L'instant M. Dorothée Barba. Sur France Inter.
Le Boléro, interprété ici par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Bonjour Damien Cabrespine.
Bonjour.
Bienvenue. C'est vous qui signez avec Anne-Solène Douguet ce documentaire. On peut le voir tout de suite sur le site d'Arte, il est déjà en ligne. Et pour ceux qui préfèrent la diffusion à la télévision, ce sera dimanche 5 janvier, donc ce dimanche à 18h50. Pas simple de raconter l'histoire d'un morceau de musique classique, fût-il un tube, hein, dans un documentaire de 52 minutes. L'un des charmes de votre film, c'est que vous n'avez pas choisi l'ordre chronologique. Vous passez du cinéma à la danse, du patinage artistique au rock, au piano, au jazz, en passant par... voilà, c'est très large et vous revenez sans arrêt à la source, à Maurice Ravel, à la musique orchestrale. Comment ce choix s'est-il imposé ?
Ouais, ce choix, il s'est imposé par la multitude de boléros qui existent, en fait. On a très vite découvert une centaine de milliers, des millions de versions du boléro. On s'est dit comment parler de tout ça. On a fait un choix. Évidemment, on n'a pas parlé de toutes les versions, mais on a quand même...
L'exhaustivité sur ce sujet est impossible.
C'est impossible. Enfin, voilà. Mais après, on a essayé d'être très représentatif de tout ce qui a pu être créé à partir du boléro. C'est-à-dire qu'on peut avoir, évidemment, le boléro classique, mais on a aussi le boléro pop. On a le boléro rock, on a le boléro jazz, comme vous disiez. Voilà, c'était ça qui nous intéressait.
La chronologie, bien sûr, n'est pas obligatoire, mais commençons tout de même par le début. Comment est né le boléro? C'est une commande, hein, au départ.
Oui, tout à fait. 22 novembre 1928, la danseuse Ida Rubinstein, qui est une grande danseuse de l'époque, joue pour la première fois le boléro à l'Opéra Garnier. Et donc, elle a commandé elle voulait un ballet à caractère espagnol. Et elle a demandé à son ami Maurice Ravel une musique pour accompagner son ballet. Et il a fait le boléro.
Il l'a créé en 4 mois, à peine.
En 4 mois. Mmh. Exactement, et c'est un triomphe immédiat.
Je commence tout petit pour finir énorme. C'est pas mal comme phrase pour démarrer l'année, je trouve. C'est ce que disait Maurice Ravel pour résumer son boléro.
Exactement, on commence tout petit, on finit... C'est une explosion à la fin.
Ce sont surtout des tournures musicales inédites. C'est une révolution pour l'époque, révolution musicale. Écoutons ce qu'en disent un chef d'orchestre britannique, un chorégraphe allemand et un chorégraphe sud-africain.
Ravel était un génie, et je ne sais pas comment il a créé cette chose avec laquelle chacun peut entrer en relation. Il y a un rythme qui est compréhensible par tout le monde, dans toutes les cultures, et un cadre mélodique qui nous transporte d'un monde à un autre et nous ouvre les yeux, les oreilles et les sens.
Il y a tout dedans. Il y a de la tendresse, il y a de la violence.
C'est une expérience physique, mentale et émotionnelle.
Sacré tour du monde que votre documentaire, Damien Cabrespine.
Oui, on est parti à la rencontre d'artistes internationaux. On a aussi bien Angélique Kidjo que le cinéaste coréen Kim Ji-woon. On a Jonathan Darlington, donc le chef d'orchestre qui est britannique. On a Lalo Schifrin, le compositeur des bandes originales de Mission Impossible, notamment de Bully It, etc., qu'on a rencontré à Los Angeles. Mais parce que ce boléro, il est international, on a appelé ce documentaire Boléro, le refrain du monde. Et c'est vraiment ça.
Un musicologue emploie une expression frappante dans votre doc, il dit que le boléro c'est un ver d'oreille.
C'est comme un virus, il rentre en nous et on l'intègre et on ne peut plus s'en débarrasser.
Vous en êtes-vous lassé, vous, de cette mélodie entêtante ?
Alors bizarrement, jamais.
Jamais ?
Jamais. Mmh. On a travaillé pendant 2 ans avec Anne Solène sur ce projet, donc pendant 2 ans on l'a beaucoup écouté et en fait, bizarrement, jamais on a été lassé par le boléro. Il faut dire aussi que dans le documentaire, on a des versions très différentes, donc du coup on n'écoutait jamais le même boléro.
Mais il y a toujours ce rythme très régulier qui revient, c'est vraiment l'ADN de ce morceau, le rythme.
C'est la base. Mmh. Et sans le batteur, le boléro n'est rien. Tout repose sur le batteur du boléro.
Il y a d'ailleurs un court-métrage, qui s'appelle Le batteur du boléro. C'est Jacques Villeray qui joue le batteur.
Exactement, c'est un court-métrage qui a été fait par Patrice Lecomte, réalisé par Patrice Lecomte, avec Jacques Villeray. Et ce court-métrage, il est assez drôle parce que donc il dure le temps d'un boléro.
On
voit le regard du batteur et la solitude du batteur. Je crois qu'on voit aussi un peu l'ennui, parfois, parce qu'il doit répéter ce rythme inlassablement pendant 16 minutes, toujours les mêmes mesures. Et il est assez drôle et il est vraiment formidable.
Alors, ce qui a contribué à la légende, c'est un disque 78 tours gravé en 1930. Le boléro fait ainsi son entrée dans les foyers. Le cinéaste Claude Lelouch, né en 1937, s'en souvient très bien.
Ma mère écoutait Luis Mariano et le boléro et Edith Piaf. Voilà, donc il y avait ça à la maison. C'était le seul disque classique qu'on avait, c'était le boléro, quoi. Les autres, c'est trop compliqué, quoi.
Ce jour-là, un comité devait choisir celle qui danserait le boléro de Ravel et deviendrait la première danseuse du Bolchoï.
J'ai construit les uns les autres sur le boléro de Ravel complètement. Il m'a inspiré l'histoire du monde avec toutes ses beautés et sa cruauté. C'était 4 familles de musiciens dispersées à travers le monde. Il fallait à un moment donné que le final du film puisse réunir des milliers de personnes autour d'une œuvre qui soit connue de tous. Et le boléro s'est très très vite imposé, très très vite imposé. C'est une musique qui accompagne les hommes dans ce qu'il y a de meilleur et de pire. Je veux dire, c'est une cause d'emmerdement au pays des merveilles.
Les uns et les autres, film sorti en 1981, musique revisitée par Francis Lai et Michel Legrand. On entend bien dans ce que dit Claude Lelouch que c'est une musique éminemment populaire.
C'est un tube.
C'est pas une musique pour amateurs de musique classique, si j'ose dire.
Tout le monde, ou presque, a un boléro dans sa playlist. Mmh. Et on peut ne pas écouter de la musique classique régulièrement. On peut écouter le boléro et l'avoir dans sa playlist sans aucun souci.
Finalement, il y a un seul domaine dont vous ne parlez pas dans ce documentaire. Et pourtant, le boléro s'y est aussi immiscé. C'est la publicité. Avez-vous envisagé d'y consacrer une partie de votre documentaire ? Il y a des pubs pour les mutuelles, pour les assurances, peut-être même pour la nourriture pour chat avec le boléro.
Je vais vous avouer quelque chose. En fait, mon premier souvenir de boléro...
C'est une pub.
C'est une pub dans les années 80. Je vais pas citer la marque, mais c'était une pub pour des assurances.
Voilà.
Oui. Alors, on n'a pas. Et évidemment,
c'est une manière de se boucher le nez que de pas le mettre dans le documentaire.
Pas du tout. Parce que c'est ça. Enfin, voilà. Je vous le dis. Mm. Mon premier souvenir de boléro, c'était ça. Mais c'était aussi ce qui nous intéressait. C'était ce côté populaire. Mm. Et non, c'est
universel.
Pas
universel.
Familier. C'est juste. Effectivement, il y en a 10 000 des pubs. On n'était pas là pour faire un catalogue de boléro. On avait déjà la danse. On avait le cinéma. On avait les arts, large. Voilà, on n'a pas parlé de la pub, mais évidemment et sans aucun problème,
ça fait partie de
notre culture pop et le boléro est pop.
La dernière scène du film de Lelouch, Les uns et les autres, est absolument culte. La caméra tourne autour d'un danseur, la Tour Eiffel est en arrière-plan, chorégraphie signée Maurice Béjart. Maurice Béjart, il a vraiment contribué aussi à la légende du boléro. Sa chorégraphie date des années 60. Il éclaire la violence de cette musique, Béjart.
Oui, il éclaire la violence et il se sert de tout ce que le boléro peut dégager. Et c'est, on parlait du premier souvenir de boléro. Pour beaucoup, le premier souvenir de boléro, c'est cette chorégraphie de Maurice Béjart qui a marqué tout le monde.
Un homme qui danse seul sur une table, il est entouré d'une foule. C'était d'abord un homme, puis ce fut une femme, Marie-Agnès Gillot, dirigée par Claude Béjart.
C'était pas du tout connoté sexuel ou sensuel, alors qu'il y a des artistes qui ont plutôt eu ce genre d'adjectif pour se diriger dans la chorégraphie. Moi, pas du tout. Moi, il voulait que je fasse vraiment très mystique, très très grande prêtresse, il me disait. C'est un bazar à danser. La tête n'a plus le dessus sur le corps n'a plus le dessus sur la tête. C'est vraiment une survie. Et donc, du coup, on rentre dans une espèce de folie pour tenir la douleur, en fait, c'est vrai.
Marie-Agnès Gillot qui a interprété donc le ballet de Maurice Béjart. C'est impressionnant cette expression qu'elle emploie, la survie. Et c'est ça finalement qui est très beau dans votre documentaire, Damien Cabrespine, c'est le lyrisme que le boléro déclenche chez les gens.
Je pense que tous les artistes qu'on a rencontrés restent fascinés par le pouvoir du boléro. Mmh. C'est-à-dire qu'il a un côté presque démoniaque. Il est envoûtant, il rentre en nous, il les inspire, il les a inspirés. Et puis ce qui était intéressant, c'était que tous ces artistes qu'on a rencontrés nous livraient une parole qui était riche et rare, parce qu'ils nous parlaient à la fois de leur rapport intime au boléro, ce que le boléro va déclencher chez eux, et en même temps, ils nous éclairaient sur une facette du boléro. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le boléro, c'est comme une boule à facettes, et chaque artiste était là pour nous révéler une des facettes de cette boule.
Et quand on dit qu'il est partout, il est vraiment partout. Et je peux vous dire qu'on secoue la tête en régie à France Inter. Iron Maiden, The Ides of March, c'est la même ligne rythmique.
C'est la même ligne rythmique. Le boléro a été beaucoup utilisé dans le rock. Les premiers à l'avoir utilisé, c'est Jeff Beck et Jimmy Page en 1966 avec un morceau qui s'appelle Beck's Boléro.
Et, il y a eu aussi Queen, Frank Zappa, Metallica, Genesis. Énormément de groupes ont utilisé ce rythme obsédant. Les notes de Ravel, dites-vous, font partie des gammes du rock.
Ça fait partie des gammes du rock, ça fait partie des gammes de la pop. On le retrouve aussi, on a en intervenant Rufus Wainwright. On a aussi le boléro chez Björk, dans un morceau qui s'appelle Hunter, par exemple. Si vous l'écoutez, alors là, on est dans l'ultra-modernité du boléro, c'est-à-dire qu'elle détourne ce petit rythme. Mais ce rythme, il inspire tous les artistes, en fait.
Vous diriez que c'est le premier morceau pop de l'histoire ?
En tout cas, je pense que c'est un des plus grands tubes de la musique classique. Et oui, je pense qu'il est pop. En tout cas, il fait partie, il est devenu un pilier de la pop culture, ça c'est sûr.
D'ailleurs, on croit souvent que la magie repose sur l'orchestration de Ravel, mais ça marche aussi très bien avec des instruments très pauvres, si j'ose dire.
Oui. Alors, les sœurs Labeck, par exemple,
célèbre pianiste,
immense pianiste, ont revisité le boléro avec un groupe qui s'appelle Egiac, qui fait des percussions basques et qui révèle une face beaucoup plus sauvage du boléro. Il y a ce côté aussi, le boléro, il s'adapte, en fait, il est malléable et on peut en faire quasiment ce qu'on veut.
Du rock au piano, on arrive à la techno. Maurice Ravel était fasciné par les bruits des usines, des machines industrielles. Et ça inspire cette phrase à l'un de vos interlocuteurs dans le film. Si Ravel était vivant aujourd'hui, il ferait de la techno.
Et cet interlocuteur, c'est Carl Craig, oui, qui est une légende de la techno, un des plus grands producteurs de musique électro de Détroit.
Le boléro, c'est la première musique répétitive.
Et c'est la première boucle, qui est une des bases de la techno.
Ça suscite une transe, du coup, chez le public.
Oui, souvent. Souvent. Mais Marie-Agnès Gillot, par exemple, dit que c'est une transe et c'est la répétition de la mélodie 18 fois qui la met en transe. Il y a aussi cette question de durée qui est très importante.
On n'a pas dit d'ailleurs combien de temps durait ce morceau. 16 minutes.
À peu près 16 minutes, oui. Ça dépend un petit peu des versions, des chefs d'orchestre, mais la version de référence fait à peu près 16 minutes.
Maurice Ravel avait chevillé au corps cette envie de faire autre chose, de ne jamais céder aux modes, de n'être d'aucun courant. Il fait ce qui n'a jamais été fait avec son boléro et il est tellement moderne finalement qu'il n'a jamais pris une ride.
Il crée une révolution musicale. Voilà, il invente quelque chose de nouveau. Avant lui, Satie a fait une musique répétitive, mais qui est restée assez confidentielle. Il arrive, il révolutionne tout.
Je me suis posé une question un peu vilaine en regardant votre documentaire quand même. Avez-vous cherché des gens qui n'aiment pas, qui détestent le boléro?
Oui.
Pour leur donner la parole aussi?
Oui, oui, on en a cherché et pour être honnête, en fait, on n'en a pas trouvé.
C'est un appel à témoins qu'on lance ce matin.
Voilà, voilà. Mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas aimer le boléro. Après, là, donc, ce documentaire parle du boléro et on entend le boléro pendant 52 minutes. Je pense que même si on n'aime pas le boléro, on peut regarder le documentaire parce que de toute façon, il y a tellement de versions de Iron Maiden à Angélique Kidjo que vous trouverez forcément un boléro qui va vous plaire.
Mais ce rythme peut rendre fou. Le chorégraphe Olivier Dubois a créé en 2009 un spectacle intitulé Révolution. Pendant 35 minutes, on entendait seulement la première mesure du boléro et on voyait des femmes qui tournaient en rond.
Le public de Révolution est soumis à rude épreuve. Et on a eu de tout, on a eu des cris, on a eu des insultes, on a eu des jets de choses sur les brûles, des gens qui veulent taper le rythme n'importe comment, en disant arrêtez, tournez dans l'autre sens. Là, donc vraiment des gens hurlent, hein, crient parce que ça met dans un inconfort tel, parce qu'il n'y a pas de négociation dans cette pièce-là. Elles sont là et elles ne lâcheront pas.
Ça peut être très pénible à écouter.
Ça peut. Alors, il faut savoir que le boléro par Olivier Dubois, donc Révolution, c'est 2h15. Vous parliez des 35 premières minutes, mais ça s'étend ensuite sur 2h15. Donc effectivement, on voit dans le documentaire des personnes qui quittent la salle, qui n'en peuvent plus. Le boléro, il peut être entêtant, c'est sûr, mais c'est une épreuve physique. Donc un boléro de 2h15, c'est vrai qu'il faut le supporter.
On n'a pas beaucoup parlé de la mélodie. Ravel, dites-vous, c'était le Paul McCartney des années 20, le créateur officiel de refrains accrocheurs.
Exactement, il adorait ça. Et il a énormément marqué pour ça.
Pour ça, voilà. Pour,
oui, parce qu'il a ce sens de la mélodie, il a compris tout de suite. En fait, il aimait par exemple les rengaines populaires. On dit qu'il s'est inspiré de la Madelon, par exemple, pour créer le boléro. Il voulait quelque chose qui... On parlait du ver d'oreille tout à l'heure, ça revient à ça. Il voulait ce tube qui va rester en tête.
Il voulait nous rendre fous. Alors, selon une étude menée par un prof de psychologie de Londres en 2013, ce serait la troisième musique la plus écoutée au monde pendant le sexe. Juste derrière Marvin Gaye, Sexual Healing, et la bande originale du film Dirty Dancing. Et ça, c'était voulu aussi par Ravel. C'est une mélodie éminemment sexuelle.
Ravel disait que son boléro était musico-sexuel. C'est écrit dans les notes. Donc oui, il y a quelque chose, mais il y a quelque
chose
à rappeler.
C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est partout au cinéma. On l'a vu dans énormément de films, on l'a entendu dans énormément de films, ce thème musical.
On l'a entendu dans plein de films. Je pense aussi que le cinéma aime beaucoup sa célébrité. C'est-à-dire que dès que le boléro apparaît dans un film, il plonge le spectateur dans un état d'esprit, dans une émotion. Et ça, je pense que c'est important pour le cinéma.
Et la fin, que dire du final du boléro ? Vous avez un regard politique sur ce final, Damien Caprespin, qui est assez intéressant.
Oui, on a décidé avec Anne Solène, enfin on a décidé, on a imaginé avec Anne Solène qu'en fait Ravel annonce un petit peu toute l'époque qui va arriver. C'est-à-dire que pendant, on est dans les années folles, on est dans une période festive, mais qui en même temps est assez inquiète. C'est un peu comme si Ravel nous disait, voilà, on s'est bien amusé. Pendant 15 minutes, on a bien rigolé, on a bien dansé, on s'est bien amusé. Mais attention, en fait, maintenant, on va revenir à la réalité. Et la réalité, elle est beaucoup plus tragique et inquiétante.
C'est l'entre-deux-guerres, c'est les années 20. Et ce final qui s'arrête en une minute, subrepticement, c'est une manière de mettre des notes sur l'atmosphère délétère de l'époque. Je voudrais qu'on écoute Angélique Kidjo, dont on a beaucoup parlé, et qui fait une très belle version du boléro de Ravel. Quand un boléro s'achève quelque part dans le monde, un autre démarre ailleurs. C'est un tube vraiment planétaire. Boléro, le refrain du monde, c'est donc ce dimanche à 18h sur Arte, documentaire d'Anne Solène Douguet et de Damien Caprespin, un film qui m'a emballé, déjà disponible sur le site internet d'Arte, à voir quand on veut, et pour la télé donc dimanche soir. Merci beaucoup Damien Caprespin.
Merci à vous.